affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Au moment où je vous parle, j'ai entre les mains un magnifique ouvrage, un ouvrage présentant un siècle d'archives photographiques du Quai d'Orsay, courant de la fin de la guerre de Crimée au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Comme l'écrit l'un des auteurs, qui découvre-t-on ? Avec en arrière-fond, je le cite, « avec en arrière-fond l'apparat de la vieille carrière, paquebot, résidence, bal, col cassé et carton corné, émerge sous nos yeux de stupéfiants carnets de civilisation, de magnifiques relevés d'altérité. Voici des mousmets en kimono, des janissaires à babouche, des palanquins et des mirabes, des mandarins à la Fu Manchu et des cavaliers de Redzu, des streamers et des trains, des canyons profonds et des temples de jungle, de farouches guerriers qui fourniront bientôt les tirailleurs de Gallieni ou les guerriers de Lawrence. L'ensemble inaugurant une esthétique spontanée qui annonce l'ère de la carte postale autant que les clichés interrogateurs de la photographie humaniste. On sent chez ces diplomates, car oui, ces photographies ont été prises sous l'égide ou directement par des diplomates, des regards à la fois maîtrisés et débordés, maîtrisés parce qu'il s'agit d'ordonner en album raisonné la profusion des différences, débordés car ces exotismes infusent un envoûtement qui porte à la séduction. Et de fait, cet album est extrêmement séduisant. J'aimerais donc pouvoir vous montrer les clichés, les trésors qu'il recèle, puisque son titre est le trésor des Quais d'Orsay, et il s'agit bien de trésors. Mais comme c'est extrêmement malaisé la radio, nous allons vous proposer au cours de cette émission bien mieux. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio les auteurs, les co-auteurs de cet ouvrage. D'une part, Marc Lambron, écrivain, diplomate lui-même et désormais membre de l'Académie française, ainsi que Jean-Philippe Dumas, historien, spécialiste de cette période, la fin du XIXe siècle, conservateur en chef aux archives du ministère des Affaires étrangères et responsable depuis près de 10 ans de cette magnifique collection du Quai d'Orsay qui, si je ne m'abuse, compte plus de 400 000 clichés.
Voilà, c'est le nombre qu'on donne environ, sachant que c'est une collection qui ne comprend pas uniquement des clichés historiques, mais également des clichés très contemporains, car le ministère s'efforce par la photographie d'intéresser à la France le monde entier. Et donc, depuis des décennies, il photographie aussi, enfin, il photographie l'étranger, mais aussi la France pour la faire découvrir au monde.
Le mouvement se déroule dans les deux sens. Alors, lorsqu'on se retrouve à la tête d'un tel fonds qu'on souhaite l'exploiter, comment procède-t-on ? Enfin, pouvez-vous nous parler de la jeunesse de ce livre ?
Alors c'est un travail extrêmement complexe puisque nous travaillons sur toutes les périodes de l'histoire. La volonté qu'on avait, c'était de présenter un peu nos trésors, ce qui a donné le titre, donc de présenter des pièces qui étaient aussi des pièces d'histoire et pas simplement de la photographie documentaire ou de la photographie dans un but esthétique, mais de raconter toute l'histoire de la politique extérieure à travers l'image. Donc notre objet était de présenter les diplomates et leur action telle qu'on la revoit à travers la photographie. Et ça nous offre un point de vue extrêmement différent de celui qu'on peut lire dans un manuel d'histoire des relations internationales, par exemple.
D'autant que, si je ne me trompe pas, un certain nombre de ces photographies n'ont pas été faites dans un cadre strictement professionnel, mais aussi par passion. C'est-à-dire qu'on retrouve à la fois des photographies envoyées au ministère, j'imagine, à titre documentaire, mais aussi d'autres faites dans un simple but d'agrément ou de passion personnelle.
Alors c'est un point que les gens oublient souvent, c'est que la photographie à la fin du XIXe siècle est une activité qui est très libre, dans la mesure où il est extrêmement facile de faire des épreuves. Il y a à la fois une photographie savante, compliquée, qui nécessite d'utiliser des plaques de verre avec une chimie extrêmement subtile pour les développer. Et puis, il y a une activité très simple, c'est la pellicule souple, la pellicule Kodak qui existe à l'époque. Et chacun peut prendre aussi de la photographie instantanée, comme le ferait aujourd'hui n'importe quel touriste.
Si ce n'est qu'on le découvre en feuilletant les pages de l'album, il ne s'agit largement pas de tourisme, tout ça n'est pas très encadré, et les terres ou les peuples rencontrés ou explorés sont encore à cette époque-là, pour certains d'entre eux en tout cas, parce que l'album est développé et présenté sous forme de, par continent, les terres sont encore souvent vierges et les rencontres peu ou prou inédites.
Voilà, c'est un des intérêts de l'album, de nous présenter des regards extrêmement différents, différents évidemment selon les continents, différents selon les populations rencontrées et selon aussi la variété des populations, parce qu'on n'est pas du tout dans un monde mondialisé comme aujourd'hui, même si tout le monde fait remonter à cette période à la fin du 19e siècle les débuts de la mondialisation. On est dans un monde où les ethnies sont extrêmement variées et on peut parcourir 10 ou 20 kilomètres sans rencontrer les mêmes personnes que ceux qu'on vient de quitter 10 ou 20 kilomètres plus tôt.
Marc Lambron, vous me regardez avec un regard sévère.
Vous trouvez sévère ? Oui, vous savez pourquoi ? Parce que vous m'avez donné une nostalgie. Vous avez dit que j'étais diplomate. Et je ne suis pas. J'ai été diplomate stagiaire quand j'ai fait mon stage de l'ENA à l'ambassade de France en Espagne. Et puis ensuite, de manière plus casanière, j'ai choisi d'aller de l'autre côté de la Seine, de l'autre côté du Pont des Arts, au Conseil d'État, où je suis devenu sédentaire. Mais voilà, c'est avec...
Diplomate un jour, diplomate toujours, ça ne fait pas partie des maximes de la maison. Donc.
Mais dans la vie, je peux être très, très diplomate aussi. Jean-Philippe vous le dira. Donc, oui, moi, ce qui me... J'ai été assez ébloui, à vrai dire, parce que je suis arrivé assez tard sur le projet, et une fois que cet album avait été constitué, thématisé par Jean-Philippe. Et d'abord, on ne sait pas forcément, en effet, qu'il y a cette archive considérable, qui est un croisement de photos parfois commandées. Il y a d'ailleurs un côté un peu apologétique dans certaines de ces photos. On montre le percement du canal de Panama, du canal de Suez, les grandes explorations. La France, mère des arts et des lois qui apporte la civilisation, enfin selon les maximes de Jules Ferry, ça c'est très très Troisième République.
Il y a un aspect positiviste.
Il y a un positivisme. Ce qui est très intéressant aussi, c'est quand même la naissance d'un regard qui passe par une technique. C'est-à-dire que les relevés d'altérité dont on parle dans cette préface, ils sont faits jusqu'en 1850. Essentiellement, alors par des récits, bien sûr, et aussi par des peintres. Par exemple, la connaissance des Indiens d'Amérique du Nord, elle résulte beaucoup d'un merveilleux peintre qui s'appelait George Catlin, et qui a été un portraitiste, qui a été un témoin assez, assez exact. Mais il y avait aussi, alors là, dans la vie diplomatique et dans la parade des ambassades, une façon de mettre en scène les diplomates eux-mêmes dans des tableaux exemplaires et laudateurs. Et puis là, d'un seul coup, on est confronté à un instrument mimétique, c'est-à-dire que l'appareil photo, les plaques, puis les pellicules argentiques capturent le réel. Et c'est aussi ça que dit, me semble-t-il, l'album, c'est-à-dire le moment où on passe d'un regard médiatisé par d'autres arts, qui sont la littérature ou la peinture, à cette photo. C'est d'ailleurs pas sans incidence, pour faire une légère digression sur l'art, c'est-à-dire que il a été relevé que l'impressionnisme, par exemple, c'est-à-dire une certaine façon de revoir, de réviser le réel, pourrait être né d'une sorte de fuite en avant des peintres qui précisément étaient, en tant que peintre figuratif, désormais concurrencé, voire supplanté par le regard photographique. Mais là, justement, ce que nous avons, ce sont ces images. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous parliez de la façon dont les regards se croisent. Il y a certaines photos, Jean-Philippe me confirmera, qui en effet sont presque faites à des fins de propagande. Il s'agit de ramener vers la France des témoignages justement de ces grands travaux. Alors on construit une ligne de train, en effet on perce un canal. Bon. Il y a d'autres photos qui sont des photos, on pourrait dire ethnologiques ou pré-ethnologiques. C'est-à-dire qu'il y a, là aussi il y a un regard occidental qui est posé sur l'autre, qui peut être posé sur le mandarin, qui peut être posé sur le moufti, qui peut être posé... Car ce ne sont pas seulement des paysages, ce sont aussi de superbes portraits interrogateurs de ce que c'est que de ce que c'est que l'autre, de ce que c'est que, qu'une autre civilisation. Et quelle qu'ait été l'intention qui était derrière, éventuellement un peu condescendante, les photos telles qu'elles sont là, littérales, elles nous redonnent aussi la beauté de ces êtres, de ces vêtements, de ces civilisations. Dont certaines sont pas très loin du premier contact. Hein. Il y a ce qu'on appelle en ethnologie le premier contact. Il y a des photos amazoniennes, par exemple, où on voit que le diplomate n'est pas loin de l'explorateur à cette époque. Mmh. Et qu'on peut encore avoir une vision assez romantique de ce métier.
On sent dans le regard qui est porté une forme d'ambivalence, c'est-à-dire ou en tout cas c'est ce qui ressort de l'ensemble, la fierté d'apporter une civilisation, la rationalité, toutes ces idées qui ont fait la France, l'Europe et l'Occident, je veux dire l'Occident moderne, l'Europe moderne, mais en même temps déjà peut-être au détour de la sensibilité du regard, le sentiment d'une fragilité et des bouleversements que l'on va apporter. Est-ce que je me trompe ?
C'est vrai que les diplomates qui partaient parfois avec des idées fausses, et ils en étaient parfaitement conscients. Par exemple, on présente l'exposition de Charles Wiener, qui était un Autrichien qui était absolument passionné par les civilisations de l'Amérique latine, qui à l'âge de 20 ou 23 ans avait déjà publié des ouvrages sur les civilisations du Chili. Et donc lui-même avait un rêve, qui nous paraît fou aujourd'hui, qui était de pouvoir ravitailler la côte chilienne en traversant, en remontant les fleuves, les affluents de l'Amazonie pour lancer des circuits commerciaux avec des barques ou des barges qui remonteraient et qui permettraient d'alimenter comme ça les sommets de la cordillère des Andes. Donc tout ça nous paraît aujourd'hui totalement utopique, mais pour lui, c'était une époque où on ne croyait pas au transport routier, comme il existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que c'était même... Mais au 19e siècle, non, on pensait qu'il y avait deux types de transport pour le fret. C'était soit le chemin de fer, soit la voie navigable. Et on sait très bien qu'on a beaucoup investi à cette époque en France sur les canaux, les voies navigables, etc. Donc Charles Wiener était parti sur cette idée. Et le fait est qu'il s'est bien rendu compte que c'était difficile. Mais enfin, il y a passé des années de sa vie pour essayer de présenter ça, pour vendre son projet un peu au ministère et à des investisseurs. Et on voit dans ces photos, on voit qu'il y croit, qu'il n'y croit pas aussi à la fois. Parce que c'est difficile quand on est confronté justement à un instrument comme la photographie, de faire croire, comme on pouvait le faire croire avec la parole, qu'on a là des voies navigables magnifiques de plusieurs dizaines de mètres de large sur lesquelles on va pouvoir remonter facilement, etc. Donc l'échec même de son projet, il apparaît dans la photo qui vient démentir son objectif principal. Donc il y a vraiment cette ambiguïté souvent.
Ce qu'on propagande, mais à double tranchant.
Voilà, exactement.
Oui, cette ambivalence, elle est aussi dans une forme de contamination ou de séduction. C'est-à-dire que on voit bien que certains diplomates arrivent avec toutes les certitudes qui sont celles de la raison républicaine, de la Troisième République. Et puis la séduction, au sens fort du mot, opère. Alors, il n'y a pas de photo de coloniaux qui tirent sur le bambou dans des fumeries d'opium en Annam. Mais il y a des photos très amusantes, par exemple, on pourrait dire de transvestisme, enfin en tout cas l'assez grand nombre de diplomates qui adoraient un peu à la Pierre Loti se déguiser en mandarin ou en arabe au Maghreb. Et il y a un vrai plaisir, il y a un vrai frégolisme qui témoigne aussi quand même d'un certain trouble et d'une certaine séduction dont on a abondamment la trace dans une littérature alors exotique, là aussi un peu condescendante. Enfin, chez Loti, chez Claude Farrère, chez les frères Tarot. Mais aussi avec des effets littéraires puissants. Par exemple, Claudel. Lorsque Claudel part en Asie, c'est encore le Claudel de Tête d'Or. C'est le Claudel qui veut être Shakespeare à travers de grandes pièces chrétiennes. Et puis en 1900, il publie Connaissance de l'Est. et connaissance de l'Est, il est évident que ce jeune homme assez génial, porté au lyrisme et à la mystique, a été vraiment plus que frappé, a été comme envahi par une autre possibilité de sagesse et de rapport au monde qu'il inscrit. Et là, on a un bel exemple de diplomate, écrivain, qui tire des conséquences esthétiques qui ne sont pas nulles sur son œuvre et sur son œuvre à venir, à partir d'un voyage ou d'un séjour diplomatique.
Oui, ça, dans le regard qui est porté, en fait, ça m'a fait penser aux jésuites. Les jésuites allant vers l'Asie, partis pour apporter une bonne nouvelle, et se laissant, d'abord probablement par tactique, imprégner par la culture qu'ils découvrent. Ce sont des choses qu'on peut peut-être retrouver aussi d'ailleurs chez d'autres voyageurs, hein, quand on pense. Il suffit d'aller traverser la Seine, non d'ailleurs pas la traverser, et d'aller aux missions étrangères de Paris, on sent que en fait, c'est un échange qui se met en place. La fascination est en réalité réciproque. Est-ce qu'on a des témoignages écrits de diplomates faisant état de cela à côté des photos ? Ou est-ce que ça tenait de, je sais pas, d'études non permises ?
Je pense que c'est ça l'intérêt de la photographie, en fait. C'est parce que ça dit beaucoup plus souvent que ce que disent les textes eux-mêmes. Parce que dans les textes eux-mêmes, les gens sont toujours... Bon, il y a toujours une autocensure de l'écrivain, peut-être pour aujourd'hui, ça je laisserai Marc en témoigner, mais au moins à l'époque, on n'écrit pas... Alors, on a une certaine liberté de ton, et ça, c'est beaucoup reproché aux diplomates dans la correspondance privée, mais dans l'écriture, quand il s'agit de l'écriture de rapports officiels, etc., on se maintient à une certaine censure. Donc ça, les rapports de diplomates, de ce point de vue-là, sont souvent un peu décevants parce qu'ils veulent prétendre à l'objectivité. En revanche, la photographie, comme le disait Marc tout à l'heure, c'est un domaine qui n'est pas encore régi par les règles de l'académisme. C'est un domaine qui est extrêmement libre. Et donc on voit...
Parce qu'il est tout neuf.
Il est neuf, voilà. Il n'y a pas encore d'art organisé. Et donc on voit la liberté de regard de chacun dans les photos qu'il prend et qui sont un vrai domaine de liberté personnelle où il peut prendre en photographie des mendiants, des bas-fonds, des points de vue dont il ne rendra pas compte dans sa correspondance.
Alors, il y a autre chose, parce que ces diplomates ne sont pas seulement, comme ils peuvent apparaître sur certaines photos, au fond, ils ressemblent un peu à des personnages de films muets, un peu parfois ces moustachus grotesques qu'on voit dans les films de Max Sennett. D'ailleurs, ce sont des images qu'on peut imaginer si elles s'animaient avec la saccade des premiers films muets. Enfin, il y a autre chose qui, à mon avis, est quand même... largement un regard français sur le monde, et ce regard, il se construit comme une volonté de savoir aussi. Au fond, ces diplomates sont les enfants des encyclopédistes, c'est-à-dire qu'il y a au moins dès le XVIIIe siècle ce projet français qui est, bon, Diderot, d'Alembert et les autres, qui est au fond, peut-être contre Dieu d'ailleurs, de constituer une archive de l'ensemble du monde connu, à travers les planches et parfois les planches illustrées de ce qui est l'encyclopédie. Et ce désir de savoir, qui alors au XVIIIe siècle se marque dans les voyages, les explorations du mont d'Urville, de la Pérouse, et ensuite dans l'expédition d'Égypte de Bonaparte, c'est tout de même très remarquable. Je ne crois pas que d'autres conquérants, enfin en tout cas depuis Alexandre, aient voyagé avec des dizaines de savants qui accompagnaient une expédition militaire. Et je crois que de cette tradition, cette libido scandi, ce désir de savoir, d'archiver et de prendre la terre entière dans les filets de la connaissance, de la raison, de l'exhaustivité, on retrouve ça. Ce pourquoi ces diplomates sont aussi maraboutés en quelque sorte par des savants, habités par un désir pré-ethnologique. D'ailleurs, l'école française de l'Extrême-Orient est fondée, je crois, en 1895 ou 1896. Donc elle est assez largement contemporaine de ces photos. Et ça va aboutir aussi à la constitution d'un certain nombre de fonds. Le musée Guimet ou certaines pièces qui se retrouvent aujourd'hui au musée du Quai Branly. Et ça va se retrouver avec un autre médium d'image qui est le film, c'est-à-dire les premiers opérateurs lumière, enfin ces Missi Dominici des frères lyonnais qui partent dans le monde entier, là aussi pour constituer de l'archive au nom du pittoresque, mais aussi au nom du désir de savoir.
Il y a des éléments communs d'ailleurs en parlant des frères Lumière. Vous avez dans l'ouvrage à la fin des remarquables autochromes, donc des photos en couleur, qui ont été faites par un opérateur des frères Lumière, un ancien opérateur à l'époque, puisqu'il ne l'était plus quand il a pris ces images pour le Quai d'Orsay, qui s'appelle Gabriel Vert, et qui est mis en valeur d'ailleurs dans l'exposition qui se déroule en ce moment au Grand Palais sur les frères Lumière, et qui après... puisqu'il est lyonnais d'origine, et après est allé travailler au Maroc, où il a initié le jeune sultan, avant le protectorat français, à la photographie. Donc le travail de Gabriel Vert illustre un peu justement ce rapport à la photographie, au cinéma, à l'image, à tous les médiums les plus récents auxquels participait le Quai d'Orsay.
Et Albert Kahn.
Albert Kahn, à la même époque, a repris un peu ce projet à titre personnel et à titre privé. Mais il a un peu repris une idée qui finalement qu'on trouve dans cet album et dans ces photos bien antérieurement réalisées par des fonctionnaires pour l'administration.
Il y a un rêve antérieur qui probablement vient du 18e, mais ces images-là, elles contiennent aussi des rêves futurs. Par exemple, ceux qui, comme moi, sont très amateurs de Corto Maltese, bande dessinée de Hugo Pratt, donc qui date de la fin des années 60, années 70, vous avez là des décors et des personnages qui sont tout à fait prattiens, si on peut dire. Où on peut même penser à Tintin, parce que les premières bandes de Tintin, c'est fin 1929 et Tintin au pays des Soviets paraît en 1930, donc à peu près 10 ans après les dernières photos contenues dans cet album.
On pense à Albert Londres aussi.
Et on peut, alors bien sûr, si on pense à Albert Londres, on peut penser à Morand, qui est déjà dans les années 20 voyage, on peut penser en effet aux frères Tarot, on peut penser bientôt à Kessel, on peut penser à tous ces écrivains voyageurs. D'ailleurs, permettez-moi une digression comme ça me vient en vous parlant, c'est que les frères Tarot sont entrés l'un après l'autre à l'Académie française. C'est une chose assez, assez rare. Et Antoine Blondin, qui était un mauvais esprit, avait dit à l'élection du second frère Tarot, encore un Tarot de casé. Mais bon, ça c'est une parenthèse inopportune, et je crois que nous allons revenir à ces voyages. D'ailleurs, dans Tintin, c'est assez intéressant, parce que les remords de Hergé, vous savez que dans les premières bandes, justement, Tintin au Congo, Tintin chez les Soviets, ou même Tintin au pays de l'or noir, les personnages, les indigènes, comme on disait, parlent une sorte de sabir, ou écrivent avec des fautes d'orthographe, parce qu'on est encore du côté de ce regard supérieur, un peu commisératoire du colonial. Et puis, Hergé, au fil du temps, a été ramené à réécrire ses albums. Avec les éditions qui sont maintenant disponibles ont été amendées en donnant une dignité à ces peuples que lui, donc un jeune Belge de la fin des années 20, sorti du scoutisme, ne leur donnait pas encore. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans cet album. C'est-à-dire qu'on voit bien, ce qu'il peut y avoir d'exotisme au sens un peu kitsch du mot qui naît de ce regard, qui aussi bien va s'exprimer dans les expositions coloniales, notamment celle de 31, qui va s'exprimer même au cinéma. L'usage de l'exotisme dans des films comme Forfaiture de Marcel Lherbier, qui est un Orient recréé avec Sylvia Bataille, femme de Georges Bataille, alors qui joue justement une Mousmée, ou même Pépé le Moko, ou l'Escadron Blanc de Joseph Perret. Enfin, il y a toute une littérature, une héroïsation aussi du soldat en période dans ces époques-là. Mais en même temps, Et c'est pour ça que certains de ces visages très énigmatiques importent, parce que ils sont pris dans le regard de l'autre. Ils ont en face d'eux un occidental avec un appareil à trépied qui appuie sur une poire ou ensuite qui apparaît sur le déclencheur d'un instamatique. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent penser ? Eh bien, ce qu'ils peuvent penser, c'est peut-être autre chose qui va se concrétiser à partir des années 20 dans le regard même des ethnologues français comme Mauss, comme Griol, bientôt comme Lévi-Strauss ou comme Léris. C'est-à-dire que la connaissance de l'autre induit aussi un respect de cette altérité, pour ne pas dire une égalité de principe entre les civilisations. Et en même temps, ça va nourrir, les valeurs de la République vont être retournées en quelque sorte contre la République elle-même. Ça, c'est une bonne partie de l'histoire de l'anticolonialisme. Et ces photos-là, elles ne sont pas si loin de la guerre du Rif en 1925, qui verra les surréalistes, prendre fait et cause justement pour les guerriers marocains contre les Espagnols, les troupes espagnoles et les troupes françaises. Pas si loin du Malraux en 31-32, la condition humaine, qui est là aussi cette occidentale, mais qui vient prendre parti dans une révolution contre un ordre qui est un ordre du passé, et plus largement tout ce qui va conduire ensuite aux indépendances, c'est-à-dire que les pays que nous voyons ici sont des pays soumis, ce sont parfois des colonies. Pas tous, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont indépendants, d'où les plénipotentiaires qui... Enfin, tout de même, c'est une terre qui est offerte à l'impérium, au désir de pouvoir être conquête de l'Occident. Et en filigrane ou en pointillé, ce qui est dessiné aussi, c'est précisément cette guerre contre l'Occident, d'où sortiront les indépendances des années 50-60.
Est-ce qu'on peut même ne pas aller plus loin ? C'est-à-dire que vous avez évoqué la façon dont... Les idées de la République ont été retournées contre elle, en tout cas dans sa dimension coloniale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en germe la fascination pour une vision du monde pré-républicaine, laissant moins de place à la raison et aux principes, des sociétés où d'autres types de valeurs retrouvent une dignité et une actualité qu'elles n'avaient plus sur le continent européen. Je trouve qu'en feuilletant les images, lorsqu'on voit... photos de plénipotentiaires étrangers en costume traditionnel, des samouraïs et autres, on se rend compte que tout un univers qui avait été en quelque sorte éradiqué, une fois qu'il était peut-être déjà un peu mort, en Europe, refait surface, ressurgit sous les yeux et s'imprime sur les photographies. Il doit y avoir quelque chose de saisissant, peut-être aussi une forme de nostalgie qui à ce moment-là renaît dans l'esprit de ceux qui voient cela, non ?
Alors on peut se poser la question, parce qu'en réalité, moi j'ai vu beaucoup de photos dans la collection Wiener dont je parlais tout à l'heure, sur le Brésil, et quand on voit des paysannes brésiliennes, on a l'impression de voir des paysannes françaises, parce que quand vous voyez les photos, c'est vrai qu'il y a, de ce point de vue-là, une volonté de représenter l'autre tel qu'on voit la personne de nos provinces, et donc on a l'impression de visiter le musée des arts et traditions populaires ou un musée alsacien traditionnel. C'est, on retrouve les mêmes colliers de perles, on retrouve les mêmes chemises de batisse, on retrouve les mêmes bonnets, parce que quelle était la volonté en réalité des diplomates et des consuls? Ils n'étaient pas simplement là en exploration personnelle, en aventure, mais ils étaient là aussi pour permettre à la France de conquérir des marchés et donc d'avoir dans des buts économiques. Donc quel est l'intérêt ? C'était l'époque où on développait ce qu'on appelait les musées commerciaux. Donc il s'agissait de montrer comment les gens étaient habillés, quels étaient leurs goûts, quel type de tissu ils appréciaient, quelles étaient les étoffes, les matières, et donc de donner des éléments pour nos commerçants. Et que faisaient les diplomates? Ils rendaient peut-être compte des goûts des personnalités locales, mais aussi ils voulaient montrer aux commerçants français qu'ils pouvaient écouler là-bas exactement les mêmes produits que ceux qu'ils vendaient en Alsace, en Normandie, et donc trouver une espèce de correspondance. Donc il y a les deux éléments. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit précédemment, je pense qu'il y a un point qui est très important dans l'histoire du regard par rapport à l'histoire de la France et de la colonisation, c'est qu'on est En effet, dans un stade particulier de l'histoire politique, qui est le stade où on veut, avant même les colonies, développer ce qu'on appelle les pays de protectorat, ce qui est resté le cas de la Tunisie et du Maroc, mais en gardant une forme d'indépendance pour les pays qui sont là. Et donc les photos qu'on a annoncent pour certaines les photos, le regard colonial, etc., dont on a parlé. Et il y en a d'autres, au contraire, qui essayent de mettre en valeur, et c'est ça qui est intéressant, les représentants, les pays étrangers, comme des êtres à part entière et comme des êtres de droit équivalent aux droits des Européens. Donc les mettre, même de façon parfois un peu ridicule, sur le même pied que les Européens. Donc on va prendre des Malgaches, on va les habiller en Européens, etc. Donc ça apprendra tout de suite. Il y a des contrastes qui apparaissent dans les images, mais il y a cette idée un peu particulière et parfois très artificielle, mais qui correspond à l'idéal qui était ceux des hommes politiques de cette époque, que la France était arrivée à un stade de civilisation qui devait être répandu à travers le monde, et il fallait développer un peu ce stade de civilisation.
Au même moment, toutefois, on cède aussi la passion pour l'orientalisme, donc ça prouve bien l'ambivalence. Hein, on essaye d'habiller les indigènes en européens, mais les salons bourgeois de Marseille ou d'autres ports se couvrent de fresques avec des hammams, des harems, et on vend cet art de vivre.
Ça avait commencé dès 1800 avec le style retour d'Égypte. Hein, le style Premier Empire est très largement un style orientalisé par l'Égypte. Mais voilà, je crois que ce qu'on disait là, c'est on est vraiment au nœud de la chose. C'est-à-dire, à la fois, il faut conquérir, civiliser, et il y a un côté vache normande à Phnom Penh, comme on vient de le dire. Et en même temps, comme vous le suggériez, tout ça est vraiment porté par un rêve. Qui a à voir avec l'orientalisme, qui a à voir avec la littérature, qui a à voir avec les cités magiques que sont Xanadu, Sipango, Opar, même dans la ville magique dans Tarzan, qui est un sériol
des années... Même la sonorité fait frissonner.
Oui, et moi je veux dire que en regardant ces photos, je pensais beaucoup à quelqu'un qui n'y apparaît pas, mais dont des photos très, très, très émouvantes d'ailleurs, parce que comme floutées, comme ça, comme déjà effacées, ont été prises autour de 1865 à Harare, c'est Rimbaud. Et Rimbaud, c'est vraiment tout à fait à la charnière de cela, parce qu'à la fois, il a rêvé ô combien je suis une bête, un nègre, dit-il, dans une saison en enfer. Enfin, il y a vraiment un appel à l'autre contre l'Occident et contre la France et Charleville où il étouffe. Bon. En même temps, qu'est-ce qu'il fait quand il y va? Il est à, peut-être comme Keats ou comme William Blake ou comme ces romantiques ou Byron, en pris dans un appel justement d'exotisme ou d'ailleurs. En même temps, il y va pour faire du négoce, pour vendre des armes et pour s'enrichir, même Rimbaud. Et ce que disent ces photos, c'est un peu ça. C'est que d'un côté, on est dans une sorte de rêve, notamment par exemple les photos des temples khmers. Là, on voit bien quand même la fascination avec ces racines immémoriales qui en serrent. Là, on est dans Jim la jungle, dans une aventure d'exploration, dans un rêve. Puis en même temps, ce rêve, il est très consolidé par... Le fer est important. Il y a aussi un âge du fer. On construit il y a des civilisations qui sont dans l'âge du bois, et on voit bien que le fer, c'est l'Occident aussi qui s'impose, les ponts, les trémies, les poutrelles. C'est ça qui est dit aussi. C'est aussi un enjeu de matière, finalement.
Voilà. Mais on espère retrouver, en effet, dans les monuments des pays qu'on découvre, des références et le même un niveau de civilisation un peu qu'on trouverait partout. C'est amusant, sur le temple d'Angkor, Francis Garnier disait à l'époque, il faut préserver ce patrimoine. Il y a là quelques bonzes et quelques moines qui sont là, mais qui sont pas du tout à même de préserver un temple aussi grand. Et il faut le préserver parce que pour nous, c'est l'équivalent de Notre-Dame ou de Saint-Pierre de Rome pour le bouddhisme. Donc il y a vraiment l'idée qu'on ait un niveau de civilisation équivalent au nôtre, un niveau de patrimoine qui mérite la préservation. Et de la même manière, quand les voyageurs qui se rendaient devant les remparts de Pékin disaient c'est les remparts de Ninive, parce qu'ils voyaient les choses avec leur culture chrétienne, avec avec la fréquentation de l'Ancien Testament, avec la lecture de Salammbô aussi, qui avait eu un succès extraordinaire et qui a sans doute déterminé un peu une grande partie du regard de ces diplomates. Donc il y a un peu cette idée de créer une espèce de civilisation universelle avec les plus beaux monuments de chaque pays. Et on revient un peu aux jésuites dont vous parliez au début de notre conversation.
Mais c'est vrai qu'ici, ce serait peut-être plutôt un regard surplombant du positiviste qui lui se place au-dessus de toutes les civilisations, y compris notre civilisation originelle. C'est-à-dire qu'on dit le temple d'Angkor, c'est l'équivalent de Notre-Dame. Pour la personne qui parle ainsi, les deux sont probablement révolus, non ?
Je ne crois pas qu'il faille retirer aux diplomates la part du rêve. Même aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'à part il y a quand même pas mal, notamment dans les institutions européennes, de lieux qui ressemblent un peu à un film de Jacques Tati, enfin un playtime, c'est stérilisé. Mais moi, le peu de temps que j'avais passé dans la diplomatie en Espagne, j'avais été très frappé par les lieux de rencontres, de symposiums bilatérales, où les châteaux servent encore, aux saisons, aux châteaux, le château de la Granja près de Madrid. Enfin, il y a encore aujourd'hui même un apparat légué par l'histoire, qui d'ailleurs se marque même dans les grands salons du Quai d'Orsay, enfin du ministère lui-même. Il y a une théâtralité aussi de la vie diplomatique qui n'est pas tout à fait éteinte et dont les bâtiments qui subsistent et dont la fascination des diplomates justement pour Ninive revue par Pékin est aussi un signe. C'est quand même un métier de théâtre, la diplomatie.
La difficulté, on l'illustre au début de l'ouvrage, où on parle un peu de l'hospitalité diplomatique, c'est pour les questions de négociation, etc. C'est que quand vous travaillez dans la diplomatie, il y a à la fois un formalisme terrible, qui est la nécessité de faire attention à chacun, etc. Et tout le monde le dit aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Europe, c'est quand vous devez avoir 27 personnes qui doivent s'exprimer le même temps à la même table, etc., c'est sûr que vous avez tout de suite perdu le temps que chacun parle une minute.
La spontanéité.
Vous avez perdu une heure dans un domaine où l'urgence des problèmes apparaît à tout le monde. Donc il y a la nécessité de confronter un certain formalisme avec le besoin pratique de réussir à s'entendre et de s'entendre avec une civilisation entre hommes civilisés qui sont capables de voir l'intérêt supérieur des nations par rapport aux enjeux immédiats de prérogatives, de protocoles et de pouvoir, et donc de réussir par-dessus tout à trouver un point de vue qui va accorder les nations. Donc il y a vraiment une ambiguïté entre la théâtralité, la diplomatie et la nécessité de la faire aussi, de la rendre aussi extrêmement informelle pour réussir à aller au fond des choses et à régler les problèmes. Et un diplomate qui ne reste que dans le formalisme n'arrivera à rien.
Non, mais c'est bien d'être informel à la Celle Saint-Cloud, à Versailles, à Schönbrunn ou à la Granja. Voilà. Les fantômes qui sont là, et c'est très bien de vivre, d'attendre l'apparition ou les réapparitions. Ce livre, c'est aussi un livre de fantômes, d'une certaine manière. D'ailleurs, là, il y a toute une photographie, à la même époque, précisément, des fantômes. Ça a été un des premiers mouvements de la photographie, avec toutes sortes de trucages. D'ailleurs, il y avait eu l'exposition à la maison de Victor Hugo il y a quelques années, tout à fait intéressante là-dessus. Les esprits, ce qui flotte, l'autre, l'irrationnel. Il y a aussi beaucoup d'irrationnel dans qui hante ce regard rationnel des diplomates.
Oui, on sent que c'est un moment où dans l'esprit des contemporains, il y a quand même un petit peu comme un manque qui se manifeste. C'est-à-dire face à ce monde extrêmement rationnel, qui est celui dans lequel ils vivent, on sent qu'il y a une forme de quête de poésie qui peut-être se retrouver tout à la fois dans l'irrationnel ou dans l'exotisme. Il y a autre chose, nous évoquions l'ambivalence.
Ou de manière mortifère. Hein. Ça, c'est la thèse de Stefan Zweig, c'est que les pays occidentaux s'étaient jetés dans la fournaise de 14-18, donc quand même un moment de pur nihilisme totalement destructeur de la civilisation en elle-même, enfin entre pays européens, disait-il, par une sorte de satiété, d'abondance, d'ennui, un temps qui ne bougeait plus et qui fait que le désir de mouvement, de nouveauté, d'altérité s'est exprimé dans un vertige de mort. Il y a des appels de vertige autour de 1890, entre 1890 et 1900. Alors ça peut passer en effet par cette forme d'exotisme, et le vertige il peut être aussi il peut être mortifère et tourner contre soi. C'est pas non plus un monde absolument serein qui est là. Il y a des paravents, mais derrière les paravents, il y a aussi des passions.
Oui, oui, c'est ce que je ressentais, c'était l'irruption. Moi, j'ai toujours cru, que, parce qu'on l'a appris comme ça à l'école, que le doute quant à la civilisation européenne, à sa capacité à éclairer le monde, était né postérieurement à la boucherie de 14-18. En feuilletant cet album, on se demande si les prémices ne sont pas là avant, si le doute quant au droit d'agir de cette sorte n'est pas déjà là.
Ils sont très nettement avant, on le voit, parce que c'est peut-être pas valable pour tous les pays européens, mais c'est très clair pour cette époque que pour nous, le doute est né pour les hommes de la Troisième République en 1870. À partir du moment où la France a été battue, où la France a été vaincue, où la France de la Révolution, même pour les gens, les républicains, de gauche, etc., c'est quand même si c'était la fin du Second Empire, c'est aussi la fin un peu de leur rêve, quand on en parlait, de la France universaliste, de la France de Diderot, de la France des Lumières. Et donc il y a...
étrange défaite.
Il y a ce sentiment de la défaite, et puis il y a aussi un point qu'on oublie toujours quand on parle de cette époque, c'est que du point de vue des relations internationales, la guerre était conçue à l'époque comme un instrument légitime de géopolitique étrangère. Donc aujourd'hui, parce que si on ne replace pas dans ce contexte-là l'histoire des relations internationales, on ne comprend pas. Le pacte Briand-Kellogg renonciation à la guerre dans les années 20, c'est quelque chose de très important, parce que cette idée qu'on puisse vivre dans la paix et avoir une relation pacifique avec, c'était une idée qui n'existait pas à cette époque-là. Donc il y avait toujours ce danger qui a peut-être disparu un peu aujourd'hui, qu'on connaissait plus jeune, quand on avait les problèmes de guerre froide, etc. Mais enfin, il y a cette espèce de tension, et les gens savent malgré tout que ce qu'ils vivent est un ordre qui est un ordre éphémère malgré tout.
Il y a d'ailleurs dans l'album quelques photos qui sont assez troublantes, parce que qui donnent le sentiment que ces diplomates étaient des diplomates, se rêvaient en explorateurs, qu'ils avaient peut-être lu Byron et Baudelaire, mais certaines de ces photos sont comme des repérages, comme des topographies d'un possible champ de bataille. Parce qu'il y a des zones assez sensibles qui vont le devenir, et dans lesquelles la diplomatie britannique, allemande, hollandaise, française peut déjà anticiper des combats. Et il y a des photos qui sont là, qui sont comme des photos d'espions presque. Qui annoncent de possibles combats, et dont on imagine d'ailleurs que le département, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, devait faire un usage pas loin de la polémologie aussi.
Oui, on savait que la géographie, ça servait à faire la guerre. On découvre que l'ethnographie peut aussi servir à faire la guerre.
Oui. Oui. Yves Lacoste n'est pas encore écrit, mais enfin, les photographes de l'époque peuvent le confirmer.
Oui, c'est très net pour les photos d'Asie centrale. On a une magnifique expédition d'un diplomate chartiste qui s'appelait Bonin, qui a passé 2 ans à remonter la route de la soie, donc à partir de la Chine pour arriver jusqu'en Europe. Et il n'allait pas là-bas par hasard, parce que déjà la partie la plus occidentale de la Chine était un enjeu de conflit, entre les Russes qui arrivaient par le Dor, avec le chemin de fer transsibérien, etc., entre les Anglais qui s'intéressaient à cette zone pour l'Inde, entre les Chinois qui même essayaient de maîtriser ces zones, parce que les conflits qu'on voit aujourd'hui avec les Ouïghours, etc., existaient déjà à cette époque-là. Et donc c'était une question pour la France de savoir comment elle se positionnait par rapport à ces conflits entre les grandes puissances, puisque la France devait absolument, c'était la politique de fierté d'exécution nationale demandée par Gambetta, donc être sur tous les théâtres d'opérations au même niveau que ses rivales ou ses concurrentes. Donc il y a une volonté qui est aussi une volonté stratégique, politique, de s'affirmer sur certains territoires et éventuellement de pouvoir à terme y mener des opérations militaires.
pour conclure sur une note plus légère, puis-je vous demander de sélectionner chacun une photographie, de la décrire et de nous expliquer à nos auditeurs pourquoi elle vous touche particulièrement.
On pourrait prendre une photo alors d'Indochine, par exemple, qui annoncerait un auteur alors plutôt des années 50-60. Je pense à Marguerite Duras. C'est-à-dire que ceux qui sont sensibles à cette poésie assez particulière d'un barrage contre le Pacifique, de films comme India Song ou Son nom de Calcutta dans Venise désert, là, on a tout à fait les éléments de décor qui correspondent d'ailleurs à ce qu'était la vie d'enfance de la jeune Marguerite Donadieu. Donc, vous pouvez aussi, à partir de ces photos, anticiper Michael Lonsdale et Delphine Seyrig dans un film, je ne sais pas ce qu'il faut dire, post-colonial de Marguerite Duras.
Et vous, Jean-Philippe Dumas, alors, parvenez-vous encore à choisir parmi tous ces clichés après en avoir déjà sélectionné un grand nombre?
Non, je vais pas faire dans l'originalité.
C'est terrible ce travail d'élagage.
Je vais pas faire dans l'originalité, mais il y a chaque collection a un peu des icônes. Donc pour nous avons une icône qui est une photographie dans laquelle on voit Gabriel Vert, dont on a déjà parlé, qui est en train de se reposer sur une chaise longue. C'est un autoportrait. Il est au Maroc, dans la fraîcheur d'un jardin, comme on les imagine, sans doute au centre d'un riad. Et il est évidemment habillé à la marocaine avec une djellaba et des babouches, mais sur sa petite table discrètement ouvragée, il a une magnifique bouteille avec un litre de vin. Donc là, on reconnaît le français qui trouve à la fois la fierté de sa civilisation, les avantages de du pays étranger.
C'est le kiff, comme on dit aujourd'hui.
Et c'est,
on sait d'où ça vient.
Et ses habitudes.
Messieurs, merci beaucoup pour cette évocation. Après l'évocation de ces deux photographies, d'ailleurs, je ne peux qu'inciter... Vous voulez rajouter quelque chose?
Non.
Inciter nos auditeurs à se reporter à cet ouvrage, car les photographies, c'est très bien d'en parler, et vous l'avez très bien fait, messieurs, mais c'est encore mieux de les contempler. Le livre vaut vraiment le coup, comme vous l'avez certainement senti, il déchaîne les passions, provoque un sentiment d'évasion, à la fois dans le passé, dans des contrées... voilà, qui sont aussi celles de l'émerveillement et de la poésie. Il s'agit donc de Trésors du Quai d'Orsay par Marc Lambron et Jean-Philippe Dumas, un siècle d'archives photographiques aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.